Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58 absolument pile. Nous sommes le mercredi 27 mars 2019 et évidemment, comme moi ce matin, vous vous dites fatalement, plus que 108 jours avant les vacances d'été. Et à cette alléchante perspective, comme Cadmérade, dont on fête aujourd'hui l'anniversaire, vous vous dites...
Je suis déjà tout dur.
Ah, je vous reconnais bien là, mes canaillots, dès 4h58. Ah, vraiment. 27 mars, c'est aussi l'anniversaire de Quentin Tarantino. Vous reconnaissez évidemment la Céline.
C'est Earth, Wind & Fire, évidemment.
Chuck Berry, la BO du film Pulp Fiction, Palme d'Or à Cannes. Enfin, on souhaite également aujourd'hui un joyeux anniversaire à Mariah Carey. Comme si on l'avait pas assez entendu pendant la période des fêtes. Céline, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mariah Carey ?
Une claque ?
Oui, ça n'engage que vous. Donc là, j'ai un petit problème technique qui fait que je ne peux pas descendre mon texte. Donc le reste, on va l'improviser, n'est-ce pas ?
Mariah Carey sera en concert le 1er juin à Paris.
Ça, c'est une blague.
Mais c'est prévu,
non.
Elle sera au Palais des Congrès.
Au Palais des Congrès.
Tout à fait.
On l'embrasse. Céline, peut-être que justement, on va faire un point sur la météo, du jour.
Bah oui, avec plaisir. Alors, beaucoup de soleil, vous allez être contents. On aura quand même un petit peu plus de neige sur la moitié nord comme hier. Mais alors, c'est ce qu'on va appeler. Un ciel moutonneux, vous voyez ?
Moutonneux, c'est-à-dire ?
Oui, vous voyez les espèces de nuages un peu en forme de mouton. Donc il y aura quand même beaucoup de soleil puisque les nuages seront présents. Beaucoup de soleil pour la moitié sud et des températures qui vont commencer à grimper. Ça aussi, ça va vous faire plaisir. Ça va même grimper jusqu'à samedi. Par contre, dimanche, dégringolada.
Dimanche,
moitié nord, retour un petit peu d'une perturbation et les températures qui baissent.
Avec plaisir. À vos côtés, Céline, justement, pour m'épauler tout au long de ces deux heures, et alors que c'est aujourd'hui la journée mondiale du théâtre, deux comédiennes fabuleuses, on repart sur le truc d'avant, oui. Puisque vous êtes deux. Déjà, bien sûr, la femme aux 12 Molières, Eva Rock, inoubliable dans La Poissonnière de la Bastille.
Ah, le cochon, qu'on lui fasse passer l'envie de fuir.
Ça c'est beau, hein. Ça quand même c'est pas mal. Et Céline, j'avais un petit message pour vous aussi, vu que c'était écrit dans ce sens-là à la base. La perfectionniste Céline Dacosta qui multiplie chaque matin les exercices de diction au cas où la comédie française pense un jour à elle.
C'est pas facile, poisson cru, poisson cuit, si tu le dis rapidement.
C'est pas ça, mais on espère que le français vous appelle pas dès demain, que ça vous laisse un peu de temps pour vous préparer. Vous écoutez... Le 5-7 qui est à la radio, ce que le bœuf bourguignon est à la gastronomie, un plat qui est encore meilleur le lendemain. C'est con qu'on soit pas demain, mais aujourd'hui, DLC, c'est parti.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce mercredi 27 mars. Et très bon réveil à tous. Il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce mercredi 27 mars est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Abdelaziz Bouteflika poussé vers la sortie par l'armée. Le chef d'état-major algérien demande que le président contesté par la rue depuis un mois soit déclaré inapte à diriger le pays. Les explications de Didier François dès le début du journal. Quand une fausse information venue des réseaux sociaux conduit à une expédition punitive, des membres de la communauté rom ont été agressés en banlieue parisienne après des rumeurs d'enlèvement d'enfants. 19 personnes sont en garde à vue. Les autorités dément de tout kidnapping. Et puis la délicate réforme de la fonction publique au menu ce matin du Conseil des ministres. Les fonctionnaires se rassemblent aujourd'hui un peu partout en France. Des semaines que les manifestations ne faiblissent pas en Algérie contre Abdelaziz Bouteflika. Cette fois, c'est l'armée qui ouvre la voie au départ du président, 82 ans, au pouvoir depuis deux décennies mais affaibli suite à un AVC. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, demande qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir, comme cela est stipulé dans la Constitution. L'armée avait jusqu'ici toujours été fidèle au pouvoir. On est donc ce matin face à un tournant, Didier François.
Absolument. L'armée vient en fait de mettre officiellement un terme à la fiction selon laquelle Abdelaziz Bouteflika était encore en mesure d'assumer ses fonctions présidentielles. Plus personne en Algérie n'était d'ailleurs prêt à gober de telles balivernes. Et même si les manifestants comme les militaires ont jusqu'à présent fait preuve d'une très grande responsabilité, cette situation ne pouvait s'éterniser sans risquer de dégénérer. Il était donc grand temps que l'armée recolle à l'opinion. Et c'est ce qu'a fait son chef d'état-major en réclamant l'engagement de la procédure de destitution qui permettra d'écarter le chef de l'État pour cause de maladie. C'est un engagement de poids puisque le général Ahmed Gaïd Salah est un proche du président Bouteflika, nommé par lui à la tête d'une institution qui en fait dirige l'Algérie depuis son indépendance en 62, qui en contrôle l'essentiel des leviers économiques et qui avait donc évidemment donné son blanc-seing au scénario qui consistait à soutenir la cinquième candidature d'un président grabataire pour ne pas déclencher une guerre de clans en lui cherchant un successeur. Les militaires semblent désormais penser que, finalement, ces petits arrangements en coulisses risquent de leur coûter bien plus cher qu'une transition négociée à la tête de l'État.
Les informations de Didier François pour Europe 1, charge maintenant au Conseil constitutionnel algérien dirigé par un proche d'Abdelaziz Bouteflika de lancer ou non la procédure.
Europe 1, il est 5h03.
Dernier Conseil des ministres ce matin pour Nathalie Loiseau. La ministre des Affaires européennes démissionne du gouvernement, investie tête de liste de la majorité pour les élections européennes le 26 mai. Liste tendance écolo, hein, avec notamment Pascal Canfin, numéro 2, ex-patron de WWF France. Et au menu du Conseil des ministres, l'examen du projet de loi de la réforme de la fonction publique. Le gouvernement promet plus de souplesse, de réactivité. Cela passerait par plus d'embauches sous contrat, donc hors statut de la fonction publique. Voilà pourquoi le texte est rejeté par l'ensemble des syndicats. Il doit être examiné au Parlement d'ici aux vacances d'été.
Les autorités parlent d'une ânerie qui a conduit 19 personnes en garde à vue.
Une rumeur née sur les réseaux sociaux a semé la psychose dans plusieurs villes de banlieue parisienne. Des membres de la communauté rom enlèveraient des enfants pour nourrir un réseau de trafic d'organes. Résultat, une expédition punitive a été menée contre cette communauté dans la nuit de dimanche à lundi. 19 personnes sont en garde à vue. Les mairies des communes concernées par la rumeur tentent de rassurer les habitants en prenant leurs craintes très au sérieux. Reportage Justin Morin à la sortie d'une école primaire de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Plusieurs mères de famille n'attendaient que cela. Un message de la mairie pour les rassurer. Vu l'ampleur de l'affaire, le communiqué a été imprimé à la dernière minute pour être distribué devant toutes les écoles. Samia, venue récupérer sa fille, vient de le lire.
Ça m'a nous rassuré déjà. Mais il faut qu'on sache. Tant qu'on recevra des vidéos, des choses. Apparemment, encore hier, c'est passé des trucs. On a entendu qu'il y a un bébé qui a failli se faire kidnapper. Voilà, on a un peu peur et voilà, on ne sait pas.
On ne sait pas. C'est ce flou lié à ces témoignages que la police cherche à vérifier qui crée le doute chez ces mères de famille.
Là, il y a beaucoup des personnes, des rumeurs qui parlent par-ci, par-là. Mais du coup, on n'a pas de concret, en fait. On a des enfants, on s'inquiète. Hein.
Pourtant, la police le répète. Pour le moment, rien n'est avéré. Il y a bien des signalements sur lesquels elle travaille, mais aucun enfant n'a disparu. D'ailleurs, aucune plainte pour enlèvement n'a été déposée. Pour rassurer la population, des patrouilles de policiers municipaux resteront à proximité des écoles.
Si on voit vraiment qu'ils mettent des patrouilles en plus, pourquoi pas ? Faut pas prendre tout ça en psychose, quoi.
Un début pour cette maman qui attend quand même que la police referme toutes les portes pour être vraiment rassurée.
Le reportage de Justin Morin pour Europe 1. La fin du changement d'heure saisonnier, ce serait à partir de 2021, a dit hier le Parlement européen. L'UE laisse toutefois du temps à chaque pays pour décider s'il souhaite adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver. En tout cas, dans la nuit de samedi à dimanche, n'oubliez pas de changer comme on le fait depuis 1960. À 3h, il sera 2h. Un Boeing 737 MAX contraint d'atterrir en urgence. Cela s'est passé à Orlando, en Floride. L'avion ne transportait pas de passagers. Il devait être emmené en Californie pour y être entreposé. Ces modèles ont interdiction de voler après deux récents accidents meurtriers. Et c'est aujourd'hui devant le Congrès à Washington que les autorités américaines défendront leur méthode de certification des nouveaux avions, alors que planent des soupçons de collusion entre l'agence américaine et Boeing. Et puis Donald Trump fustige la lenteur et, je cite, l'inertie bureaucratique de la NASA. Et il entend retourner sur la Lune d'ici 2024, 4 ans plus tôt que prévu, et que la prochaine personne à en toucher le sol devrait être une femme. Plus aucun être humain n'a foulé le sol lunaire depuis 1972.
Et justement, Jérôme, on reste avec les femmes pour le journal des sports. À la une, Corinne Diacre a son plan.
La sélectionneuse de l'équipe de France féminine de foot a dévoilé hier une liste de joueuses appelées à affronter le Japon et le Danemark en amical le mois prochain. Une liste pas anodine puisque c'est la dernière sélection avant la sélection, celle des participantes à la Coupe du Monde en France à partir du 7 juin. Une absence remarquée dans la liste d'hier, celle de Marie-Antoinette Katoto. Elle a 20 ans, c'est l'attaquante du PSG, meilleure buteuse du championnat de France, 18 buts. Parfois trop timide sur les terrains, sa non-sélection ne veut toutefois pas dire qu'elle ne sera pas au mondial, tempère Corinne Diacre.
La liste définitive n'est pas encore donnée, donc il n'y a pas de sanctions sur les joueuses qui ne sont pas là. Et je ne peux pas vous dire quelle sera la liste définitive non plus. J'ai quelques noms, mais après, vous savez, j'en raye, j'en remets, j'en réécris, j'en rebarre. Ça change.
Le foot féminin ce soir, ce sont les quarts de finale. Retour de Ligue des Champions, PSG-Chelsea, 19h. Défaite parisienne 2-0 à Londres à l'aller. Et 18h15, Wolfsburg-Lyon. Attention pour les rhodaniennes, triple tenante du titre, victorieuse seulement 2-1 à l'aller. Et puis côté garçon, la victoire 6-0 des Italiens hier soir face au Liechtenstein. En qualification pour l'Euro 2020, le Parisien Verratti a notamment marqué.
Le cas Adrien Rabiot revient sur le devant de la scène.
Le jeune milieu de terrain est reçu aujourd'hui par ses dirigeants au PSG. Il est en conflit depuis 3 mois. Rabiot, il est même depuis peu mis à pied, on lui reproche une sortie en boîte de nuit le soir de l'élimination en Ligue des Champions, match pour lequel toutefois il n'était pas convoqué. Le PSG pourrait aller jusqu'à rompre le contrat de Rabiot. Le joueur est soutenu par le syndicat des joueurs et son président Philippe Piat.
Le problème qui se passe avec le Paris Saint-Germain, le directeur sportif a fait l'erreur de déclarer publiquement que Rabiot ne jouerait plus s'il ne prolongeait pas son contrat. La chose est entendue. Le Paris Saint-Germain est en faute. Il se tire une balle dans le pied d'avoir un joueur de ce niveau-là qu'ils mettent sur la touche et qu'ils ne le font pas jouer.
Des propos recueillis par Julien Froment.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
32 minutes auront suffi au numéro 1 du tennis mondial Novak Djokovic pour remporter cette nuit le premier set de son 8e de finale au tournoi de Miami face à l'Espagnol Bautista Agut. Pourtant, Djokovic il a finalement perdu ce match en 3 manches. Le Serbe éliminé dès les 8e de finale. Encore une élimination prématurée comme à Indian Wells il y a 2 semaines.
Décidément. Merci, décidément. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec la météo et le pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, qui ne s'est jamais dit, souvent vers 3h du mat, après une longue série de tequila paf. Traduction, et si je changeais de vie? Certains l'ont fait, oui, c'est la traduction exacte. Hein. Certains l'ont fait, chaque matin, Europe 1 leur donne la parole dans Fallait oser, cette rubrique qui plaît tant à Eva, même si elle a de plus en plus de mal à garder son sérieux tout au long de l'interview, hein, surtout quand la personne qui a changé de vie a un nom cocasse. Corinne Popo, elle a décidé de tout changer et de s'offrir une ferme. Aujourd'hui, elle produit des kiwis.
Elle s'épanouit vraiment au contact de ces arbres qu'elle traite avec beaucoup de respect et d'attention. C'est un petit...
C'est le kiwi qui vous fait rire ? Le petit kiwi ? On avait passé le plus dur et elle a craqué. Un petit coup de Michael Jackson à la fin, on ne sait pas pourquoi.
Les 5h10, Mathieu Noël.
Debout les copains se poursuit avec un point météo. Avec vous, Céline Dacosta, beaucoup de soleil aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Et ça, même si les nuages comme hier seront encore présents sur la moitié nord aujourd'hui, le soleil va briller. Il brillera même en mètre sur la moitié sud. On atteindra les 20 degrés près de la Méditerranée cet après-midi. On gagnera aussi quelques degrés sur la moitié nord hein, et ça va continuer à grimper jusqu'à la fin de la semaine. Samedi sera une belle journée avec une moyenne de 18 degrés sur la moitié nord, de 21 pour la moitié sud. Ça va se gâter à partir de dimanche. On aura l'occasion d'y revenir. En attendant, ce matin, se couvre, il fait froid de moins 3 à 6 degrés en moyenne.
Ça reste friscounet quand même. Et baroque. Oui. Ah, nous posons la question aux auditeurs, puisque tout à l'heure
oui,
nous l'avons zappé.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout à l'heure, je n'avais pas mes textes, si vous voulez, donc j'ai dû un petit peu improviser. Ouais. Et je vous ai effectivement oublié.
Eh bien, figurez-vous qu'il y a 2 journées mondiales aujourd'hui. Vous
savez
qu'on
mal.
Adore ça, celle du fromage et celle du théâtre.
Je sais qu'il y en a une qui vous fait plus plaisir que l'autre.
Oui, exactement. Non, l'autre. Alors, que préférez-vous? Eh bien, on vous a déjà posé la question depuis 3h30 ce matin. Il y en a déjà des réponses. Racontez-nous une émotion lors d'une dégustation ou au contraire, ou enfin, en parallèle, le bonheur.
Ou si vous avez mangé du fromage au théâtre.
Eh bien, justement, vous savez pas quoi? Robin
vous
qui travaille...
Vous savez pas quoi? Je sais pas si... Oui, c'est pas très joli.
C'est pas très joli.
Mais
c'est pas très joli. Robin qui travaille chez Virgin et qui prépare aussi sa petite matinale nous dit « Une planche de fromage, ça marche ?» Ah, planche de fromage.
Oh, joli, belle association.
Et il nous dit qu'il fait partie de la team Pélardon, donc je ne sais pas ce que c'est que le Pélardon.
Fromage de chèvre ou de brebis.
Voilà. Et il nous dit sur une tartine chaude avec de la tomate et des herbes de Provence, c'est excellent. Voilà.
Mais essayez, ça vous donne pas envie, Eva, d'essayer?
Non, pas du tout. Vous continuez en revanche à nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ça marche, évidemment. Merci Eva, merci chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous amuse et qui parfois aussi vous secoue. Sortir de sa zone de confort, démissionner pour se relancer dans un autre secteur beaucoup en rêve. Certains l'ont fait. Chaque matin, Europe 1 leur donne la parole. Ce matin, je vous présente Laurence Dieuzy. Elle a 58 ans, elle vit à Pont-l'Évêque en Normandie, pays de fromage s'il en est. Il y a 15 ans, elle a été licenciée de son poste d'assistante de direction. Passionnée par les chevaux, elle s'est lancée dans le métier de technicienne dentaire équin. Autrement dit, dentiste pour chevaux.
Fallait oser.
C'est juste en regardant le JT avec Jean-Pierre Pernaut, qui annonce toujours à 13h soit un village insolite ou un métier curieux ou une curiosité de ce genre. Et là, il y avait dentiste équin. Et là, à la télévision, je vois une jeune femme, à peu près ma corpulence, pas trop épaisse. J'ai contacté cette femme et elle m'a donné la marche à suivre, l'école de Brighton. J'ai fait cette formation de dentisterie équine qui a duré une petite année en Angleterre. J'ai créé ma micro-entreprise et puis le lendemain, je suis allée travailler.
Alors, elle a d'abord soigné des chevaux de spectacle, puis sa clientèle s'est élargie à toute la région PACA où elle vivait à l'époque.
Et depuis le début de cette année, elle exerce aussi en Normandie, sa région d'origine. Laurence, elle adore son métier, elle est satisfaite lorsqu'elle voit un cheval aller mieux. C'est un travail qui nécessite d'avoir le contact facile et de savoir maîtriser ses patients.
C'est une bonne liberté, je vais dire. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dehors, au grand air. Je suis assez sportive, en fait. Et voilà, me retrouver dans des écuries, dans des odeurs que j'aime. J'ai l'impression que j'avais toujours fait ça, en fait. Mais c'est un métier difficile, ceci dit, hein, parce que ça demande quand même beaucoup de
patience, beaucoup de contrôle de soi et un savoir-faire, oui, avec les chevaux, comment les aborder, comment leur parler, comment se positionner par rapport à eux. Tout est un langage corporel, en fait, avec les chevaux.
Pour info, et là je m'adresse surtout à Céline Dacosta qui est passionnée par le sujet, sachez que la dentition d'un cheval, Céline, est en croissance permanente. Contrairement aux humains, il faut donc régulièrement soigner les dents des équidés.
Et si vous habitez en région PACA ou dans le pays d'Auge, n'hésitez pas à contacter Laurence. Et puis si vous aussi vous avez changé de métier et vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous nous envoyez un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui conjugue la rigueur de l'info et l'insolence de la modernité.
C'est parti mon kiwi.
À suivre, votre point santé, ce changement législatif entré en vigueur le 1er janvier qui fait de nous tous des donneurs par défaut. Le docteur Ichou nous explique pourquoi le don d'organes est si important. Et puis qui dit mercredi dit sortie cinéma, mais quel film allez voir? Notre expert ciné les a tous vus pour vous, il en a retenu deux rutilants programmes, vous l'admettrez. Alors Céline, qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs?
Si tu es une mouette, viens.
Oui, enfin, même si vous êtes simplement un humain, venez aussi, hein, on va vraiment passer un beau moment. Pour patienter, voici quelques notes de musique. Calogero, On se sait par cœur, une chanson que nous aussi, on commence à connaître par cœur.
Il est 5h17. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Abdelaziz Bouteflika poussé vers la sortie par l'armée. Le chef d'état-major algérien demande que le président contesté par la rue depuis un mois soit déclaré inapte à diriger le pays. Charge maintenant au Conseil constitutionnel algérien dirigé par un proche d'Abdelaziz Bouteflika de lancer ou non la procédure. Quand une fausse information venue des réseaux sociaux conduit à une expédition punitive, des membres de la communauté rom ont été agressés en banlieue parisienne après des rumeurs d'enlèvement d'enfants. 19 personnes sont en garde à vue. Les autorités démentent tout kidnapping. Enfin, dernier conseil des ministres ce matin pour Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes démissionne du gouvernement, investie tête de liste de la majorité pour les élections européennes en mai prochain. Liste sur laquelle on retrouve en numéro 2 l'écologiste Pascal Canfin, ex-patron de WWF France.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 26-27 mars. Nous sommes quel jour aujourd'hui?
27.
Merci de me le préciser. J'ai vraiment eu un gros problème de savoir quel jour nous sommes cette semaine.
Peut-être que vous étiez bien au 26.
C'est vrai. J'ai trouvé le 26 tellement délectable.
À l'envers, vous voyez?
La procrastination à l'envers. Ouais. Je ne sais pas si on doit s'étendre sur ce point-là. Non. En tout cas, nous sommes le 27 mars, précisons-le à ceux qui se réveillent. Mon petit doigt me dit qu'il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Marseille-Borély et que notre expert hippique va vous le confirmer dans une seconde en redisant exactement la même chose, mais avec dans la voix beaucoup plus d'excitation. Bonjour Thierry Léger.
Des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Marseille-Borély et mon pari gagnant sera le 107 Elvis Duvallon. Parmi les 16 chevaux au départ de cette deuxième étape de ce grand national du trot, le Tour de France des trotteurs, c'est le plus jeune mais certainement pas le moins doué. Bien au contraire, car face à de vieux tontons vieillissants, il aura pour lui sa parfaite condition physique, mais aussi son aptitude marquée à cet hippodrome marseillais sur lequel il n'a jamais terminé plus loin qu'à la 5e place. Alors notez bien, pour cet après-midi à Marseille-Borély, réunion 1 dans la première course, le numéro 7, Elvis Duvallon.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h19.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et chers auditeurs, autant il est des matins où pour assouvir vos penchants voyeuristes, je suis contraint de me creuser la tête et de détourner des sons pour dresser le tableau imaginaire d'une colocation obsédée par la bagatelle, autant il est des matins où, la réalité dépassant la fiction, l'introduction de cette séquence me tombe toute cuite dans les mains. Il faut dire que Céline Dacosta, Eva Rock et Hélène Zellani, brainstormant pour savoir si les hommes ont ou pas un périnée, voilà une séquence que même après 3 bouteilles de Pomerol, je n'aurais pas été en mesure d'imaginer.
Surtout les hommes n'ont pas de périnée.
Bah moi c'est ce que j'allais dire. Il y a encore faudrait-il qu'il y ait un périnée. Et après je me suis dit, bon, si tout le monde m'a arrêté, c'est qu'ils n'en ont sûrement pas.
Mais non.
En fait, il y en a un.
Mais non.
Et
oui.
Hein ? J'ai vérifié parce que du coup, vous m'avez mis. Mais comment le muscler ? C'est ça la question.
Voilà, donc là vous vous dites, comme Céline la première fois qu'elle a vu Jérôme en slip.
Bien monté, tout ça.
Mais bien non. À part la musique de James Bond, rien n'est monté, vous venez d'entendre in extenso une vraie séquence off de notre émission. Flippant, hein.
Et encore, expurgé
de certains moments vraiment gratinés. Alors, on passe au pressing plutôt. Notre revue de presse en mode zapping, à la une de vos quotidiens ce matin les amis. Alors que le chef d'état-major de l'armée algérienne a demandé, que le chef d'état-major de l'armée algérienne a demandé à ce que le président soit déclaré inapte, le Figaro titre, l'armée lâche Bouteflika, Libé, Bouteflika, Bouté, plus rigolo. Tout autre sujet pour la Croix, ce sera Vieillir chez soi, pas si simple. Et à la une d'aujourd'hui en France, les Français, pas prêts de lâcher leur voiture, 75% d'entre nous prennent en effet encore la voiture pour aller travailler. Mais vous, mes insatiables canailloux, qu'avez-vous trouvé dans la presse ce matin, Eva Rock ?
Reportage sidérant à lire dans les Échos ce matin et qui est titré « Le grand exode des Noirs de Chicago ». Alors que la ville de Barack Obama s'apprête à élire pour la première fois une femme noire à la mairie, eh bien figurez-vous que la cité est confrontée à un phénomène migratoire et identitaire, la communauté afro-américaine quitte Chicago. Pourtant, dans les années 40, ils étaient des millions à fuir le vieux sud ségrégationniste pour venir travailler dans les aciéries, les abattoirs de la ville, qui embauchaient alors à tour de bras, raconte la journaliste Elsa Coneza. Sauf que, deux générations plus tard, eh bien, ils sont presque tous repartis et ils repartent vers les États d'Atlanta, de Géorgie ou du Mississippi. À Chicago, l'exode elle a surtout frappé les quartiers sud et ouest de la ville, où se concentrent donc les familles afro-américaines, comme Englewood, qui a perdu près de 60% de sa population noire depuis 1980. Un changement démographique, mais alors pas du tout la fin de la ségrégation. À Chicago, plus que dans n'importe quelle ville autre ville américaine, traverser la rue, c'est franchement changer brutalement de pays. Il y a les merveilles architecturales du centre-ville qui sont presque instantanément remplacées par des maisons aux fenêtres murées par des planches, trottoirs défoncés et magasins aux vitrines figées dans le temps. Des quartiers où la violence est quotidienne, où les emplois industriels ont été remplacés par des jobs de service, jobs pour lesquels les Noirs sont restés à l'écart. La destruction systématique des grands ensembles HLM où était hébergée une partie de la communauté noire a encore renforcé son éclatement et les chiffres sont éloquents. Écoutez bien, alors que la reprise économique a quasiment fait disparaître le chômage des statistiques nationales, eh bien, certaines communautés n'ont pas subi cette reprise économique. À Chicago, par exemple, 42,8% des hommes noirs âgés de 20 à 24 ans sont sans emploi, contre 8,5% pour les blancs et 17% pour les latinos du même âge.
C'est la raison principale de l'exode.
Exactement. Le chômage, la violence, et puis cette politique, notamment d'urbanisme, qui les a fait fuir de la ville. Et pourtant, il y a un paradoxe parce que l'industrie, elle revient peu à peu à Chicago. En début d'année, Ford a annoncé investir 1 milliard dans ses usines de la ville. 500 personnes devraient être recrutées, alors c'est pas beaucoup, mais au même moment on apprend que 55 000 emplois industriels sont non pourvus dans la région de Chicago. Et pourtant, eh bien, la communauté afro-américaine quitte Chicago en grande masse pour s'enfuir vers le sud. C'est un reportage étonnant à lire dans les Échos ce matin, une page entière.
Merci beaucoup Eva pour cet éclairage international, ouais. Comme souvent vous le faites. Et je tenais à dire, ça n'a rien à voir, oui. À part que ça se passe à Chicago, mais je suis en train de penser à une série que j'avais adorée qui s'appelle Boss, sur un maire de Chicago.
Exact.
Qui s'accroche au pouvoir qu'il a un problème exactement une forme de maladie d'Alzheimer qui arrive et qui s'accroche au pouvoir. C'est magnifique sur les dessous du pouvoir et ça se passe à Chicago et Chicago est filmé de manière assez intéressante. Céline Dacosta.
Oui, alors moi ce matin, grâce aux Parisiens, je vais vous parler d'une catégorie de personnes qu'on a tous autour de nous. Ils sont jeunes dans leur tête et ont inventé une façon de prendre de l'âge sans vieillir. Une nouvelle catégorie sociale dont j'espère nous ferons tous partie autour de cette table parce que ça a l'air plutôt cool. Celle des quincados.
Alors, des quoi ?
Moi, j'ai choisi de prononcer le S. On se posait la question avec Eva, est-ce qu'on prononce le S ou pas ? Mais moi, je trouve que c'est plus sympa. Quincados. Alors non, comme me l'a suggéré Jérôme Lacroix, les quincados ne sont pas des personnes de 50 ans qui apprennent l'espagnol.
Ah, c'est joli ça.
Car ce sont effectivement des personnes...
Toujours le mot pourri, ce Jérôme Lacroix.
Très moyen, il était 3h30.
Justement, il était 3h30. Car ce sont effectivement des personnes qui ont la cinquantaine, mais la cinquantaine joyeuse, décomplexée, loin de la caricature du vieux beau ou de l'adolescent sans attarder, qui refusent le temps qui passe, ces quincas sont conscients de leur âge, ils en sont même fiers. Ils le disent eux-mêmes, ils vivent une seconde adolescence, la maturité en plus.
Alors moi, attention, parce que la deuxième adolescence à la 50 ans, ça peut être vite ridicule.
Mais à la maturité en plus.
Il y a quand même ce point en plus.
Moi, je rajoute, sauf Madonna, c'est moi qui le rajoute, qui a 60 ans et toujours en pleine adolescence. Alors oui, parce que je précise, les quincalos vont de 45 à 60 ans. On s'en approche donc doucement. Ces quincas sont bien dans leur peau avec plein de projets. Doucement, j'ai dit doucement.
J'ai regardé personne.
Vous n'avez pas. Non. Ce qui fait que la crise de la cinquantaine n'a plus vraiment lieu d'être pour eux. Pas forcément envie d'acheter une voiture qui va vite ou de passer sous le scalpel. Le sociologue Serge Guérin, qui sort le 3 avril un livre sur le sujet, rajoute que même si cette catégorie sociale apparue en 2013 est plutôt issue des tranches socioculturelles élevées et plutôt en milieu urbain, Ça fait un peu reportage animalier. Eh bien non, ce n'est pas un truc de riche. Non, non, ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt d'état d'esprit. Il précise, tous les quinquados ne sont pas divorcés, même si quand ils le sont, le fait de redécouvrir la séduction après 20 ans de vie commune est une des représentations du quinquados. Et puis surtout, c'est la première fois dans l'histoire que les gens sont en bonne santé à 50 ans, qu'ils sont actifs et qu'il leur reste presque autant à vivre. Alors, ils en profitent et ils ont bien raison.
Ah là, je crois qu'on va vraiment rattraper Fun Radio sur les jeunes. Là, je sens une migration des auditeurs. Là, les jeunes se disent, c'est sur Europe 1 que ça se passe.
Les jeunes de 50 ans.
Les jeunes, les quinquados en tout cas. Les quinquados, on va devenir numéro 1 sur les quinquados. Jérôme Lacroix.
Je suis pratiquement certain, Mathieu, que nous tous autour de cette table, on en a dans nos placards à la maison. Je vous parle des produits. Je vous parle des produits homéopathiques. Arnica pour les bobos, psilocortinum,
c'est vrai que l'arnica, c'est homéopathique.
Voilà, il y en a.
77% des Français y ont régulièrement recours. Alors, l'homéopathie très populaire, mais étriée par l'Académie de médecine, comme le raconte notamment ce matin Le Figaro. Alors, l'hostilité des médecins pour l'homéopathie, c'est pas du tout nouveau. Mais pour la première fois hier, les sages de la rue Bonaparte à Paris ont exposé de manière officielle cette colère entendue depuis plus de 30 ans. L'homéopathie, c'est du chiquet. L'Académie de pharmacie leur emboîte le pas. Les académiciens ont voté 58 voix pour, 16 voix contre. Cette thérapeutique, disent-ils, repose sur des bases non scientifiques. Aucune efficacité en dehors de l'effet placebo. C'est ce que disent de nombreuses études cliniques. Les défenseurs, eux, de l'homéopathie, se basent sur d'autres études qui restent elles-mêmes toutefois très prudentes. Elles avancent que l'efficacité tient à des phénomènes encore pour l'instant inexpliqués scientifiquement.
Mais c'est l'effet placebo.
Ben voilà, c'est ce que disent
placebo,
exactement.
Si on y croit, ça marche.
Qu'on arrête de dire que c'est un médicament, s'insurge Jean-Luc Delmas, ancien président de l'Académie de pharmacie. Mais il y a un principe de réalité, l'homéopathie étant populaire, que les médecins en prescrivent et même les hôpitaux en intègrent à leurs offres de soins à l'occasion. Alors ce qui précipite aujourd'hui la prise de position de l'Académie de médecine et de pharmacie, et là on va parler de notre porte-monnaie, hein, attention, c'est la demande du ministère de la Santé et de la Haute Autorité de Santé sur faut-il continuer à rembourser l'homéopathie. Aujourd'hui le taux de remboursement pour certains de ces produits homéopathie, c'est 30%. Les médecins disent « ça suffit, il ne faut plus rembourser » parce que rembourser, c'est crédibiliser. Alors franchement, ce n'est pas pour le prix que ça coûte, hein, et ce n'est pas ça qui va faire des économies à la sécurité sociale. Récemment, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, disait « si l'homéopathie est reconnue inutile, elle ne sera plus remboursée, dont acte. Qu'importe le manque à gagner peut-être pour les pharmaciens, parce que si l'homéopathie n'est plus remboursée, bah, peut-être que certaines personnes vont moins en acheter, du coup, pour les pharmaciens, c'est un manque à gagner. Et les éventuelles conséquences économiques pour tout le pays. Parce que la France, je l'ai appris donc dans ce papier à lire ce matin dans Le Figaro, est leader mondial du marché de l'homéopathie.
Ah oui, donc les mentalités vont mettre du temps à changer.
Oui. Voilà, mais comme vous disiez, c'est l'effet placebo si on y croit.
Ah moi c'est comme ça que ça marche pour moi, les médicaments. Ah oui, merci
tout
Jérôme.
Même.
Oui, tout dans la vie, c'est vrai, ouais. En général. Je suis peut-être pas un très bon exemple pour nos auditeurs. Merci Jérôme, merci à tous. Les amis, les portes du pressing se referment, ainsi que, on l'espère, celle du débat sur le périnée des hommes. Ok les filles, hein.
Donc en fait,
oui, non.
Ils en ont un.
Non.
Et on a regardé où il était situé,
oui,
en fait. Entre la...
Oui, oui.
C'est étonnant,
oui,
hein. Et tu peux le musquer avec une sonde.
Non, allez, la suite.
Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zelani. Prodigieux réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h29, Mathieu Noël.
Et si nous faisions un point sur la météo, Céline Lacosta, encore un peu de nuages sur la moitié nord.
Oui, un petit peu. Ils sont
jamais à partir.
Oui, ils sont surtout présents ce matin de la Normandie aux Hauts-de-France et puis ensuite sur la moitié nord dans l'après-midi, mais ils partageront le ciel de façon équitable avec le soleil. Ils sont sympas ces nuages. Pour la moitié sud, en revanche, grand soleil, ciel bleu toute la journée. Les températures, elles sont toujours bien fraîches ce matin. Ça va considérablement se radoucir cet après-midi avec une moyenne de 12 à 16 degrés sur la moitié nord et 15 à 20 pour la moitié sud.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui est au journalisme d'investigation, ce que Rondo Veneziano est à la musique classique. Oui, je viens peut-être me tirer une balle dans le pied là. À suivre en tout cas, le point santé du docteur Ichou qui ce matin nous sensibilise à l'importance du don d'organes. Et puis, vous aimez le mercredi? Vous aimez les tuyaux? Vous allez adorer mercredi les bons tuyaux. Au programme, c'était peut-être mon meilleur lancement de l'année. Au programme, la fine fleur des sorties ciné du jour, le documentaire événement de Netflix sur Antoine Griezmann. Et puis les coulisses d'un succès mondial dont vos ados vous rabattent les oreilles. C'est la star des jeunes, Céline.
Comment elle s'appelle? Chantal Goya.
Oui, un peu comme ça. Fortnite, la star des jeunes d'aujourd'hui, Céline. Pas d'hier.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 27 mars 2019. Bonjour Hélène Zeleny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Le projet de loi sur la fonction publique en Conseil des ministres. Réforme rejetée par les syndicats qui appellent à des rassemblements devant toutes les préfectures de France. Des rumeurs propagées sur Internet entraînent une série d'agressions visant la communauté rome en région parisienne. Une vingtaine de personnes sont en garde à vue. Et puis le président Bouteflika lâché par l'armée. Le chef d'état-major algérien demande qu'il soit déclaré inapte.
Europe 1.
La réforme de la fonction publique est donc au menu du Conseil des ministres. Ce texte, très critiqué par les syndicats de fonctionnaires, sera examiné au Parlement d'ici cet été. Une réforme en profondeur qui, pour le gouvernement, doit rendre le service public plus souple et plus réactif. Exemple concret, Olivier Samin, faciliter l'embauche d'agents publics sous contrat.
Plus de souplesse, plus d'agilité, mais aussi la volonté d'attirer de nouveaux profils. Voilà ce que le gouvernement met en avant pour justifier ce recours accru aux embauches sous contrat. Avec l'idée que, dans certains métiers de l'administration, il n'est pas nécessaire d'être fonctionnaire de carrière. Les postes peuvent être occupés par des personnes qui ont pu faire leurs preuves précédemment dans le privé et qui y retourneront probablement après. Des postes de haut niveau, ingénieurs par exemple, mais pas uniquement. Cet élargissement des embauches sous contrat concernera toutes les catégories de la fonction publique. Les syndicats voient rouge, rappelant qu'il y a déjà un agent de l'administration sur cinq qui est contractuel et donc précaire. Mais surtout, disent-ils, on voit bien l'objectif qui est poursuivi, s'affranchir des contraintes du statut de la fonction publique qui garantit la continuité du service public. Leur crainte, notamment, c'est qu'en multipliant les embauches sous contrat, l'administration se retrouve confrontée à un turnover élevé qui entraînera une perte de compétences et donc une détérioration du service public.
Olivier Samin, cette réforme de la fonction publique prévoit de supprimer 120 000 postes d'ici 2022 sur les 5,5 millions d'agents. Les 9 syndicats de fonctionnaires qui accusent le gouvernement de vouloir une fonction publique alignée sur les règles du privé appellent à manifester aujourd'hui devant toutes les préfectures de France. Après le Conseil des ministres de ce matin, Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, va quitter le gouvernement puisqu'elle est désormais tête de liste de La République en marche pour les prochaines européennes. Pour la remplacer, c'est le nom de Clément Beaune, conseiller pour l'Europe à l'Élysée, qui revient le plus souvent.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée demande que le président Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir ou qu'il démissionne.
Oui, une annonce surprise faite par le général Gaïd Salah, l'un des personnages les plus puissants du pouvoir algérien. Elle intervient plus d'un mois après le début d'une grande contestation populaire contre un cinquième mandat du président, âgé de 82 ans et très affaibli par la maladie.
Europe 1, il est 5h33.
Le tout premier numéro d'écoute dédié à l'autisme sera lancé dans les jours qui viennent.
Autisme Info Service, c'est l'idée d'une association fondée par des parents, dont l'acteur Samuel Le Bihan. 700 000 familles sont concernées en France. Elles sont souvent confrontées à la difficulté de trouver des informations fiables, qu'elles soient médicales ou administratives. Mélanie Gomez.
Aujourd'hui, quand on est parent d'un enfant atteint d'autisme, lorsqu'on a besoin d'un conseil, bien souvent, on se tourne vers les réseaux sociaux ou les forums. C'est ce que les trois quarts des familles concernées font. Le problème, c'est qu'on y trouve certes de l'entraide, mais l'info n'y est pas toujours très fiable, selon Florent Chapelle, co-président d'Autisme Info Service.
Mais vous savez bien que sur un réseau social, tout le monde s'exprime. Il dit bah tiens, vas-y, prends tel médicament, fais ci, fais ça. Par à l'étranger, on parle de grève de moelle osseuse en Chine, n'importe quoi. Je ne dénigre personne, mais à un moment donné, quand on veut être sûr de ce qu'on trouve, il vaut mieux aller vers une source validée.
Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ?
Ce sont des questions curieusement d'ordre administratif. C'est-à-dire qu'elles ont besoin qu'on leur donne les moyens d'avancer. Elles veulent trouver un établissement, elles veulent trouver un job pour leur enfant, un logement. Donc voilà, on va les aider à leur expliquer dans ce méandre administratif comment ça fonctionne.
Enfin, bien souvent, les parents ont juste besoin d'être mieux orientés vers des professionnels de santé proches de chez eux ou même tout simplement vers des services. Et pour ça aussi, Autisme Info Service pourra apporter une réponse puisque le site va proposer un annuaire sur lequel les familles pourront trouver par exemple un dentiste, un laboratoire d'analyse ou même un club de poney capable de recevoir les enfants atteints d'autisme dans de bonnes conditions.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, Autisme Info Service, sera lancée dans quelques jours au 0800 71 40 40.
Oui, on y reviendra Hélène avec l'initiateur de cette plateforme, Samuel Le Bihan, qui sera notre invité à 6h20. Dans l'actu également aujourd'hui, la préfecture demande de ne pas relayer les fausses informations sur des enlèvements d'enfants dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis.
Oui, fake news sur une camionnette blanche qui circulerait dans ces deux départements de banlieue parisienne. 20 personnes ont déjà été placées en garde à vue après des expéditions punitives contre la communauté rome qui, d'après ces rumeurs, rumeurs sur les réseaux sociaux seraient à l'origine de ces enlèvements. Et puis un incident inquiétant sur un Boeing 737 MAX. L'appareil de la compagnie américaine Southwest était en convoyage vers la Californie, mais un problème de moteur l'a obligé à atterrir d'urgence en Floride. Il n'y avait aucun voyageur à bord. Deux Boeing 737 MAX se sont écrasés ces derniers mois, vraisemblablement à cause d'un problème dans le système anti-décrochage.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zelani. Hélène qui est désormais, n'en déplaise à Céline, ma collègue préférée depuis qu'elle m'a fait ce merveilleux compliment sur mes yeux lundi.
Non, elle t'a fait pire que ça, un truc avec un seul doigt.
Oui, non, c'était en fait, non. On passe rapidement au journal des sports de Jérôme Lacroix. À la une, nos champions du monde font des envieux. Débrouillez-vous avec ça.
Oui, c'est ça. Les Bleus du foot brillent en ce moment, on en a parlé bien sûr, et les grands clubs européens préparent déjà la saison prochaine. Parmi les joueurs les plus convoités, Antoine Griezmann, Paul Pogba et puis bien sûr, Kylian Mbappé, régulièrement envoyé par la presse au Real Madrid, surtout depuis le retour sur le banc castillan d'un certain entraîneur français, Cyril Delamorinerie.
Oui, Zidane en rêve, il fait de Kylian Mbappé sa priorité. L'entraîneur du Real souhaiterait l'associer en attaque à Karim Benzema. Mais un départ du PSG dès la fin de la saison est peu probable. D'abord parce que Kylian Mbappé lui-même a déclaré publiquement son attachement au club parisien. Il affirme qu'il jouera dans la capitale la saison prochaine. De sources proches du PSG, on confirme d'ailleurs qu'un départ du joueur de 20 ans n'est pas d'actualité. Et puis surtout parce qu'un porte-parole du Real Madrid vient de démentir les folles rumeurs, affirmant que le club madrilène était prêt à débourser des sommes astronomiques pour arracher la pépite parisienne. En fait, à l'heure actuelle, l'entraîneur du Real, Zinedine Zidane, souhaiterait d'abord connaître l'état de son vestiaire, identifier les manques avant de lancer une grande offensive lors du mercato. Si Mbappé a peu de chances de traverser les Pyrénées en juin prochain, son coéquipier Neymar pourrait lui être tenté par un départ. Un joueur que le président du Real, Florentino Pérez, aime particulièrement. Meneur de jeu, mais aussi méga star, capable de faire exploser la vente des maillots. Neymar coche toutes les cases.
Cyril de la Morinerie, hier soir, victoire fleuve des Italiens 6-0 face au Liechtenstein en qualification pour l'Euro 2020. Un but pour le milieu du PSG, Marco Verratti.
Nouveau revers pour Novak Djokovic.
Le numéro 1 du tennis mondial éliminé cette nuit du Masters 1000 de Miami dès les 8e de finale, sorti en 3 manches par l'Espagnol Bautista Agut. Et puis le couac pour Christopher Froome sur le Tour cycliste de Catalogne. Deuxième étape hier. Et le champion britannique pris dans une chute. Il a perdu plus de 14 minutes. Étape remportée au sprint par l'Australien Matthews.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
Oui, j'ai choisi Jean-François Fontenot. C'est le président du club de rugby d'Agen. Et il va déposer plainte contre X après un acte de violence condamné sans ambiguïté. Samedi dernier, lors d'un match de top 14, l'arbitre du match Agen-Clermont a reçu un projectile lancé depuis les tribunes, sans doute une pièce de monnaie. L'auteur sera retrouvé et sanctionné, dit le club, qui pourrait toutefois être sévèrement très bientôt puni par la commission de discipline de la Ligue, convocation mercredi prochain.
On suivra cette affaire, Jérôme Lacroix, je compte sur vous. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, un garçon si débordant d'énergie que malgré des horaires éreintants, il trouve encore la force d'assister à des soirées libertines déguisées. Alors mon GG, ça donnait quoi votre soirée Schtroumpf coquin hier?
C'était bien, c'était bon, c'était bleu.
Oui, c'est comme ça que j'imaginais aussi.
Europe 1.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures sur le fil de l'info, en équilibre au-dessus d'une équipe de branquignoles qui tente de me faire tomber en hurlant.
Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne.
Mais je résiste. À suivre, juste avant notre sélection des meilleurs films parmi les sorties ciné du jour, votre point santé. Et le saviez-vous, depuis 2 ans, nous sommes désormais tous donneurs par défaut. Si on refuse, il faut désormais signaler qu'on s'oppose au prélèvement d'un de ses organes. Une belle avancée pour tous ces malades en attente de greffe. État des lieux donc du don d'organes aujourd'hui en France avec le docteur Ichou. Et que de changements quand même depuis le temps lointain où certains patients en désespoir de cause se tournaient vers le marché noir et se retrouvaient confrontés à des médecins mal formés. Dis Janine, c'est où déjà le cœur?
C'est pas loin de la prostate.
On l'a fait. Béni soit le 21e siècle.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta.
Oui, avec
du soleil, mais quelques petits nuages aussi.
C'est
hein.
Ça,
tout n'est pas parfait.
Vous avez bien résumé la situation. Beaucoup de soleil, et même si les nuages comme hier sont encore présents sur la moitié nord aujourd'hui, le soleil va briller. Il brillera même en mètre sur la moitié sud, où on atteindra les 20 degrés près de la Méditerranée cet après-midi. Il en fera 14 à Paris. On gagnera aussi quelques degrés donc sur la moitié nord. Ça va continuer à grimper jusqu'à la fin de la semaine. Samedi, très belle journée. Soleil pour tout le monde, moyenne de 18 degrés sur
sur la moitié nord, de 21 pour la moitié sud. Et là, c'est sûr, contrairement au week-end dernier, on a eu beaucoup de nuages.
Ne vous avancez pas trop, parce que le week-end dernier, j'ai dû annuler un pique-nique.
Non, il va faire beau. Par contre, ça va se gâter à partir de dimanche. Hein. Prévoyez plutôt votre pique-nique samedi cette fois-ci.
D'accord.
Dimanche, perturbations sur la moitié nord et températures qui vont recommencer à baisser. Ça va même dégringoler. En attendant, ce matin, on se couvre car il fait froid, moins 3 à 6 degrés, c'est la moyenne.
Merci Céline et Varoc.
Deux journées mondiales aujourd'hui, celle du fromage et celle du théâtre. Que préférez-vous ? Racontez-nous une émotion lors d'une dégustation ou le bonheur d'une pièce que vous avez vue récemment. C'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et bien, il y a Sébastien qui nous dit « J'aime pas le fromage », mais il a une question pour vous Mathieu. D'où vient le petit Suisse ? Est-ce que vous savez ? Ça vient de Gournay-en-Bray, c'est en Normandie, si à la base il a des origines suisses du comté
mais est-ce
de
que
Gournay, Vaud,
est-ce que
Vaud... c'était au Moyen-Âge.
Ah d'accord, c'est pour ça, parce que ça aurait pu être la Suisse normande, vous savez qu'il y a une partie de la Normandie qu'on appelle la Suisse normande.
Non, c'est ça, c'était dans le comté de Vaud et c'était au Moyen-Âge, mais maintenant c'est originaire
de Vaud,
Gournay-en-Bray.
Pas le comté de Vaud, hein. Le canton, parce qu'il n'y a pas de comté en Suisse, c'est plutôt des cantons.
C'est ça. Ah oui.
Le canton de Vaud.
Canton de Vaud.
Voilà, c'était bien de faire cette précision. Merci Eva et merci à vous chers auditeurs pour toutes ces contributions.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est aujourd'hui le départ de la course du cœur qui n'a rien à voir avec la course qui est faite pour trouver un amant à Eva Rock. Pendant 4 jours et 4 nuits, des athlètes et des transplantés du cœur vont se relayer dans cette course entre Paris et Bourg-Saint-Maurice pour sensibiliser au don d'organes. Bonjour docteur Ichou.
Bonjour Mathieu.
Pourquoi doit-on sensibiliser le public au don d'organes ?
Bien parce qu'il y a pénurie. Les besoins augmentent et les dons ne sont pas suffisants. Les dons de cœur, rein, foie, poumon, pancréas peuvent faire l'objet d'une greffe et on a besoin de ces greffes. Pour augmenter les dons, chaque Français est donneur par défaut.
Ah
auparavant,
oui.
On se retournait vers les familles du défunt qui décidaient d'accepter ou de refuser le don. Désormais, le refus doit être enregistré sur le registre des refus en ligne, www.registrenationaldesrefus.fr. Et on pourra même décider quels organes on accepte de donner et lesquels on refuse de donner.
Est-ce qu'on a des chiffres sur cette situation de pénurie d'organes dont vous nous parliez ?
En 2015, environ 21 000 personnes étaient en liste d'attente pour des greffes. Pour 5 700 greffes effectuées. Donc vous voyez, le rapport est quand même important. Et faute d'organes à implanter, 553 personnes sont décédées. Par définition, il s'agissait d'organes indispensables à la vie. En revanche, vous savez qu'on peut vivre sans rate, sans estomac.
Sans estomac ?
Sans estomac, oui, on raccorde directement l'œsophage à l'intestin grêle. Sans une partie du côlon, sans organes génitaux, sans prostate, sans vésicule biliaire, sans appendice, sans rein s'il en reste un autre.
Merci beaucoup Marcel Ichou, on se retrouve demain pour un nouveau Point Santé, 5h40.
Europe 1, il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, tout comprendre de l'actu sans jamais, au grand jamais, oublier d'en rire, à suivre. Les secrets du jeu aux 250 millions de fans, Fortnite, un documentaire événement sur le prodige du foot français Antoine Griezmann et le retour de Dumbo sur les écrans, mais version Tim Burton. C'est l'exceptionnel programme que vous réserve dans quelques instants, mercredi, les bons tuyaux. Avant cela, Céline, 3 secondes de questions-réponses avec vous-même, thème libre.
C'est beaucoup trop sucré le Porto. Ouais, mais c'est bon.
Oui, c'est ce qui est bon aussi, c'est d'écouter un peu de musique et ça, on peut le faire sans modération. Je vous propose Offenbach avec Paradise. Ça devrait nous réveiller.
Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Quand une fausse information venue des réseaux sociaux conduit à une expédition punitive, des membres de la communauté rom ont été agressés en banlieue parisienne après des rumeurs d'enlèvement d'enfants. 19 personnes sont en garde à vue, les autorités démentent tout kidnapping. La fin du changement d'heure, ce sera à partir de 2021, a dit hier le Parlement européen. L'Union européenne laisse toutefois du temps à chaque pays de décider s'il souhaite adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Enfin, un Boeing 737 MAX contraint d'atterrir en urgence, ça s'est passé à Orlando, en Floride. L'avion ne transportait pas de passagers, il devait être emmené en Californie pour y être entreposé. Ces modèles, on le rappelle, ont interdiction de voler après 2 récents accidents meurtriers.
Europe 1.
Voilà pour l'essentiel de l'actu de ce mercredi 27 mars. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos rigoureuses, mais néanmoins joviales grâce à la folie de mes consoeurs Eva et Céline. Tenez Céline, on est entre nous. L'endroit le plus fou, vous ayez fait l'amour.
Dans une barrique de tequila.
Moi, un boxe à chevaux en bordure de l'hippodrome de Chantilly. Bonjour José Coves.
Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui à Marseille, l'hippodrome de Borély sur lequel se dispute la première course. Parmi les 16 partants, mon 5 majeur, Kalaska de Guèze, le numéro 4 est invaincu des pieds nus sans CFR et ne peut que viser la gagne. On peut en dire autant d'Elvis du Vallon, le 7, il possède un sacré potentiel. Si le bouillant Black Jack From, le 8, garde la tête froide, il finira dans les 3 premiers. Le numéro 1, KG Caillon, est à 100%, puis un super Viking d'Hermès, le 16, cela dit, en raison d'un handicap de 25 mètres, c'est plus un placé qu'un gagnant. Après, on peut penser au 11, Bulle de Lomont, 3 courses cette année, 3 victoires. Puis le cheval de Michel Sardou, le 5 Cross d'Herpé, sur cette piste, il se donne toujours en spectacle. Et enfin le 6, Bachar, c'est un très bon cinquième. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h45. D'abord le 4, le 7, le 8, l'As et le 16, et ensuite le 11, le 5 et le 6.
Je sais pas vous, José, mais moi je vois bien Cross d'Herpé, le cheval de Michel Sardou, nous chanter « Je vole ».
Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole.
Eh bien oui, à Marseille, il demande qu'à voler. Sur cet hippodrome, en 6 prestations, Cross d'Herpé a toujours fini parmi les 5 premiers. Voir sa casaque à l'arrivée ne serait pas une surprise, mais un vrai bonheur pour Michel Sardou. Mathieu, ses chevaux, c'est sa véritable maladie d'amour.
Oh, c'est beau. Ah, si José Coves n'était pas là.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mercredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour l'actu high-tech et pour le cinéma. Celui qui parcourt les couloirs d'Europe 1 avec l'air hautain et satisfait de celui qui peut se prévaloir, c'est vrai, du prestigieux titre de vice-directeur adjoint délégué du service culture, ce qui n'est pas rien. Mathieu Charrier, à qui je dis attention, l'ivresse du pouvoir ne justifie pas l'insolence. Or, vendredi dernier, alors que j'arborais, comme le veut pourtant la coutume en entreprise, une tenue Friday Wear, vous vous êtes permis cette remarque déplacée.
Bah, est-ce qu'on met un sweat à capuche pour aller au travail?
Scandale! Heureusement que Céline Dacosta était là pour vous rappeler la hiérarchie dans cette maison.
Bah, il fait ce qu'il veut, c'est le boss. Il peut venir en slip s'il veut.
Eh oui, je fais ce que je veux, Mathieu Charrier. Vous auriez mérité un blâme, mais je suis magnanime. On commence.
Vous êtes en slip ce matin.
D'ailleurs, on ne peut pas le voir sur Europe 1.fr.
Si, à partir de 6h.
À partir de 6h, vous le verrez. Je suis un tout petit peu habillé. Alors, Mathieu, on parle cinéma évidemment mercredi, sortie cinéma. Et on commence, Mathieu, par le retour de l'éléphant aux très grandes oreilles.
Eh oui, trop mignon. Dumbo, version Tim Burton cette fois. Vous savez qu'en ce moment, Disney est en train de ressortir tous ses classiques en images réelles. Alors, après Alice au Pays des Merveilles, par exemple, après Cendrillon ou Le Livre de la Jungle. Et avant Aladdin et le Roi Lion, qu'on découvrira bientôt, place donc à Dumbo. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, simplement en quelques mots. Cet éléphant tourne dans un cirque familial avec ses très grandes oreilles, pas très esthétiques, mais terriblement pratiques, notamment pour voler. Son dresseur dans le film, c'est Colin Farrell, et surtout ses deux jeunes enfants qui vont se prendre d'affection pour cet éléphanto. Sauf qu'il va être racheté par un terrible directeur de parc d'attractions, interprété par Michael Keaton. Alors il faut préciser que ce n'est pas une transcription
du dessin animé.
Ça n'a pas rien à voir, mais c'est une adaptation à la patte Tim Burton, même si le film est bel et bien ancré dans l'univers Disney. D'ailleurs, c'est toujours amusant de voir Disney produire un film dans lequel l'univers des parcs d'attractions est pas mal critiqué. Vous me direz, vu leur chiffre d'affaires, ils peuvent se le permettre. Bref, Dumbo version Tim Burton, c'est une réussite taillée pour affoler le box office. Les plus jeunes pourront découvrir Dumbo à cette occasion. Les plus anciens replongeront avec gourmandise dans cette histoire qui a bercé leur enfance. Dumbo signe donc un retour en trompe.
Oh, joli.
Oui, on l'avait travaillé.
Ah, vous l'aviez travaillé, effectivement. L'effet sonore était déjà là. J'ai dit, mets-moi vite une cymbale, mais vous aviez fait mieux, vous aviez le parissement.
Vous me prenez pour des débutants.
Ah non, je vois que vous êtes un grand professionnel. Vous n'avez pas usurpé votre titre de vice-directeur adjoint délégué par intérim du service culture. Deuxième film que vous nous conseillez aujourd'hui, Mathieu. Il s'appelle C'est ça l'amour. Il est signé Claire Burgeon.
Oui, qui avait fait Party Girl, je ne sais pas si vous en rappelez, qui avait reçu la Caméra d'Or à Cannes sur l'histoire de cette entraîneuse de bar âgée. Cette fois, elle nous prouve finalement qu'un père est une mère comme les autres. Ce père, c'est Mario, joué par le formidable Bully Lanners. Sa femme a quitté le domicile conjugal. Il se retrouve à devoir gérer seul ses deux filles adolescentes. À partir de speech assez simple, la réalisatrice déroule sa partition remplie de finesse, d'amour, d'humour. Il y a le manque de la mère à gérer, la reconstruction d'un homme brisé, la construction aussi de ses deux adolescentes qui découvrent leurs amours, hétérosexuels ou homosexuels. C'est bouleversant. Les comédiens nous emmènent au sein de leur famille que l'on a envie d'aimer. Il y a cette phrase du père que je trouve magnifique. Alors qu'il a ses deux filles dans les bras, il dit « Toute ma vie, c'est vous aimer. » Ça résume bien ce film et l'amour qui en déborde. C'est ça l'amour. Allez-y, c'est une petite pépite.
Merci. Envie. Ça donne envie. Ouais. Ça donne toujours envie avec vous, Mathieu Charrier. Ouais. On a envie d'aller au cinéma avec vous. Surtout, vous devez avoir des prix sur les places. On passe aux nouvelles technologies, les amis. Ce matin, on parle jeux vidéo avec vous, Clément Le Saff, avec un chiffre. 250 millions. Ouais. De quoi ?
250 millions, comme le nombre de joueurs actifs sur Fortnite dans le monde. Le jeu qui cartonne depuis un an vient de franchir cette semaine ce palier aussi symbolique que gigantesque.
Mais c'est quoi Fortnite ? J'ai toujours pas compris.
Eh bien, Fortnite, pour rappel, c'est ce petit jeu qui a commencé petit et qui est devenu très grand maintenant, qui est le roi des Battle Royale. Ce sont des jeux où une centaine de joueurs s'affrontent en même temps sur une carte qui rétrécit petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un survivant, c'est le vainqueur.
Ah, bah remarque, c'est génial comme concept.
Et effectivement, ouais. C'est très simple. Ça a été lancé en 2017, Fortnite. Il y a eu d'autres jeux avant lui, c'est pas le premier. Mais c'est lui qui a contribué à populariser vraiment ce genre de jeu grâce à son accès, notamment c'est gratuit, ses graphismes presque enfantins, sa prise en main, c'est très très simple. Tout le monde peut y jouer en une heure, on peut maîtriser. Et en un an, bah, le nombre de joueurs a été multiplié par 6, rien que ça. Et ce qui est intéressant, bien, c'est qu'un joueur de Fortnite sur 3 est une joueuse, une présence féminine bien plus élevée que la moyenne sur ce type de jeu.
J'imagine qu'un tel succès doit faire des envieux, Clément.
Ouais, cette réussite de Fortnite, elle est d'autant plus impressionnante que la concurrence est chaque mois un peu plus rude. En remettant les Battle Royale à la mode, Fortnite a donné des idées à tous les développeurs et il se lance régulièrement des nouveaux jeux de ce genre avec plus ou moins de succès. Hein. Le dernier carton en date, c'est Apex Legends. Ça a été lancé début février par le mastodonte Electronic Arts, c'est l'éditeur des jeux FIFA notamment. Et en à peine 2 mois, bah sur ce jeu, il y a déjà 50 millions de joueurs. Il avait fallu 6 mois à Fortnite pour franchir ce palier, mais le contexte n'était pas aussi favorable à l'époque.
Et c'est quoi la prochaine étape pour ce jeu événement ?
Eh bien, sa simplicité et son grand nombre de joueurs lui ouvrent les portes de l'e-sport, les compétitions de jeux vidéo. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, League of Legends, c'est le jeu le plus joué actuellement en compétition. Il compte entre 100 et 120 millions de joueurs dans le monde. C'est 2 fois moins que Fortnite. Alors, du coup, la première Coupe du Monde de Fortnite va se dérouler cette année et ça s'annonce complètement fou. Comme au foot, il y aura des qualifications ouvertes à tous les joueurs du monde entre avril et juin. Les 100 meilleurs joueurs disputeront la finale à New York fin juillet. Et tenez-vous bien, le vainqueur empochera la bagatelle de 3 millions d'euros.
Ah, c'est pour ça que vous vous entraînez toute la journée.
Oui. Voilà.
Ah, vous ne misez pas tout sur Europe. Hein. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous avez bien raison, Clément.
Plans.
Vous avez d'autres plans pour l'avenir.
Peut-être.
Oui, c'est pas gagné pour nous, Eva. Ouais. Déjà qu'on a découvert ce qu'était Fortnite aujourd'hui. Je pense qu'on part
vous,
avec
vous
un peu de retard.
Découvert.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'on regarde sur les écrans, Eva ?
Eh bien, figurez-vous que je vous emmène vers Netflix. Alessandra Sublet, récidive, figurez-vous, après avoir consacré un premier film à Antoine Griezmann qui avait été diffusé sur TMC, eh bien, elle a choisi de produire un second documentaire sur le footballeur, mais disponible effectivement sur Netflix, extrait de la bande annonce.
Ce rêve de gamin d'être pro, d'aller à l'entraînement tous les matins, de vivre du foot, c'était mon rêve.
Il y avait une aisance technique qui était... ce genre d'aisance technique qui s'apprend pas, quoi. Ça, c'est de l'inné, c'est de l'acquis, c'est du talent.
14 ans à la Real Sociedad, je tiens à le remercier déjà, je t'aime.
Enfin, déjà, pour mon père, dire je t'aime à moi tout seul, c'est compliqué. Mais là, devant des milliers de personnes, encore plus.
Et oui, quand le sport est générateur d'émotions, eh bien, la preuve une fois de plus à travers le parcours d'Antoine Griezmann. Alors sans commentaire, sans surplus d'experts, comme c'est souvent le cas pour les documentaires biographiques, ce film donne la parole au joueur, évidemment, à son père, à son premier agent, à Didier Deschamps et à Lucas Hernandez, son confrère de l'équipe de France de football. Ensemble, ils vont narrer le destin d'un gamin dont personne ne voulait au départ. Il faut bien savoir ça. Il était trop petit.
Ah oui, bah, c'est comme Platini, il a été refusé de tous les centres de formation.
Et qui puis finalement, à 14 ans, est parti pour le Real Sociedad. Il a beaucoup pleuré, Antoine Griezmann, loin de chez lui et de ses proches, des années de sacrifices qui ont fini par payer. À l'Atlético de Madrid, il est devenu une star et puis en parallèle, sa présence au sein de l'équipe de France est déterminante pour l'esprit du groupe, pour le collectif et évidemment pour son talent. Le documentaire revient sur la relation de confiance entre lui et Deschamps et sur cette aventure incroyable que fut la Coupe du Monde. Difficile sincèrement de ne pas être ému en le voyant les larmes aux yeux à l'évocation de la finale de la victoire parce que cet aboutissement est l'occasion pour lui de remercier...
La finale de la Coupe du Monde. C'est la finale
et
de la victoire aussi, on peut l'appeler comme ça.
Non, mais... Et la victoire, voilà. Parce que cet aboutissement est l'occasion pour lui de remercier ceux qui ont compté dans les 28 premières années de sa vie. C'est franchement très réussi. Ça s'appelle Antoine Griezmann, champion du monde, et c'est sur Netflix.
Magnifique. Clément
Le Saff. Il faut savoir qu'on était bien coordonnés, puisqu'Antoine Griezmann est un grand fan de Fortnite.
Ah,
et ses petites danses
joueur.
Quand il marque des
et
buts paraît... sont sorties de Fortnite.
Ah, c'est vrai.
Oh, c'est vachement intéressant comme information.
Oui,
ça. Je me demandais pourquoi il faisait ces petites danses ridicules.
Voilà. Il paraît qu'on veut aller voir Dumbo en plus.
Vous l'emmènerez voir Dumbo. Vous lui donnerez du popcorn.
Avec sa petite fille.
Merci Eva Rock, merci à toute l'équipe des bons duos qui se reformera demain. Mathieu, un dernier mot viril pour fortifier le petit Clément.
Ah là là.
Super.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h02.
Céline Kaman. Il est 5h58, Mathieu Noël.
Quel temps pour ce 27 mars, Céline Dacosta. Une journée agréable.
Oui, on aura quand même beaucoup de soleil un petit peu partout. Les nuages sont un peu plus présents ce matin de la Normandie aux Hauts-de-France et gagneront cet après-midi toutes les régions au nord de la Loire. Mais le soleil sera bien présent aussi. Ciel bleu et plein soleil en revanche pour la moitié sud, avec un vent toujours présent dans la vallée du Rhône et près de la Méditerranée, mais qui faiblit au fil de la journée. Attention ce matin au brouillard présent près des côtes de la Manche, notamment en Bretagne en ce moment.
Les températures sont très fraîches ce matin.
On dépasse difficilement les 3 degrés. On a aussi des températures négatives, moins 3 degrés à Romorantin, moins 1 à Mulhouse, 0 à Tarbes, il en fait 3 à Strasbourg, à Brest, 5 degrés du côté de Nancy et Lyon, 6 à Paris, 7 à Lille, jusqu'à 10 degrés tout de même à Perpignan. Et puis cet après-midi, bonne nouvelle, on regagne quelques degrés avec une moyenne de 12 à 16 degrés sur la moitié nord, il en fera 14 à Paris. Pour la moitié sud, ça grimpe bien aussi, 15 à 20 degrés en moyenne, 20 degrés attendus à Montpellier, à Perpignan et à Nîmes.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.